Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Comment je travaille ? Est-ce qu'on sait jamais comment on travaille ? Ce qui est sûr, c'est que lorsque j'entreprends un nouveau film, je pars sur une idée sans savoir où elle me mènera. Ce qui m'intéresse dans le monde, c'est l'homme et cette aventure unique, pour chacun, de la vie. Je suis avant tout un individualiste. Ainsi parlait Roberto Rossellini, qui, sans faire véritablement école, fit tout de même des petits, comme l'annonce la lettre sur Rossellini de Jacques Rivette dans le numéro 46 des Cahiers du cinéma. Par l'apparition de Voyage en Italie, tous les films ont soudain vieilli de 10 ans. Rien de plus impitoyable que la jeunesse, que cette intrusion catégorique du cinéma moderne, où nous pouvons enfin reconnaître ce que nous attendions confusément. N'en déplaise aux esprits chagrins, c'est cela qui les choque ou les importune, qui a raison aujourd'hui. C'est cela qui est vrai en 1955. Voilà notre cinéma, à nous qui nous apprêtons, à notre tour, à faire des films. En 1987, Les Nuits Magnétiques se penchaient sur l'œuvre immense et la captivante personnalité du très romain Roberto Rossellini.
Combat Commander to Page.
Hear that? That's the sound of my combat radio from ITT.
Nuit Magnétique. Nuit Magnétique.
Dicette ballo mio che sto paese, gatti de broro la sboracise.
Mais tout de suite, comme tous les mercredis soirs, les gens tout de même cinéma, Jean Couturier, Michel Bouju, Laure Adler. En fin de compte, je suis atteint de solitude, la plus subtile, celle qui germe et fleurit au milieu des égards. Il est temps que je détruise l'erreur fondamentale qui a été commise à mon égard. Je ne suis pas un cinéaste. Même si je possède dans ce domaine une espèce d'habileté, le cinéma n'est pas mon métier. Mon métier est celui qu'il faut apprendre quotidiennement et qu'on n'en finit jamais de décrire. C'est le métier d'homme. Et qu'est-ce qu'un homme ? C'est un être debout qui se hausse sur la pointe des pieds pour apercevoir l'univers. Les gens tout de même cinéma, ce soir, spécial Rossellini.
Personnellement, je crois qu'il n'y a pas un goût du public. Il y a un goût du public qui a été soigneusement construit. Alors, si ça c'est vrai, je ne vois pas du tout pour quelle raison il y a bien des gens qui sont très autorisés de suivre ce goût et de le contenter. Mais je crois qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir le rêve de faire changer ce goût. Et je crois que c'est très fertile, ça. Pour quelle raison il faut le refuser ? Il faut bien se rappeler ce qu'il était le cinéma en 1945. C'était une cérémonie, un rituel qu'on célébrait dans un temple, que c'était un studio, et il fallait rester cloué là-dedans. Et à ce moment, nous étions tous foutus par le capital qui nous tenait là-dedans avec le cou sous l'eau. Alors, l'important,
ça,
c'était...
Ça n'a pas changé, tu sais.
Oui, je viens au point, là, qui est important. Ce qu'il fallait faire, il fallait inventer un système pour que chacun qui avait dans les tripes quelque chose à dire puisse le dire sans être victime de ça. Alors nous avons commencé par sortir des studios pour aller dans des vrais décors. Nous avons dû inventer comment coller les lampes au plafond. Nous avons dû inventer un tas de choses qui nous libérait un peu. Et puis la nouvelle vague qui n'a, selon moi, si on veut lui donner une étiquette esthétique, ça n'a aucune valeur, puisque vraiment, la nouvelle vague n'a pas une valeur esthétique, elle a une valeur historique, mais elle a une valeur d'organisation. C'est-à-dire, la nouvelle vague a vraiment poussé beaucoup plus loin ce que le cinéma réaliste avait fait, et elle s'est libérée encore plus de tout ce fignolage, de tout ce maniaque, ce côté maniaque du cinéma, pour en faire plus librement.
Peut-on parler de retour de Rossellini, Michel Bouju ?
C'est le mot qui convient. Parce qu'on peut dire qu'il en va des cinéastes comme des fleurs des champs. Il y a ceux qui refleurissent et ceux qui se fanent et s'étiolent. Voilà, on est en pleine métaphore bucolique. Il y a surtout ceux qui s'éloignent et ceux qui reviennent, effectivement. Et alors en ce moment, 10 ans après sa mort, comme ça, comme un grand cycle, Roberto Rossellini est de retour. comme si, d'une certaine façon, sa façon d'approcher la réalité un peu en documentariste nous importait plus que, par exemple, le cinéma opéra à la Visconti, qui a eu son heure de gloire, Visconti son compatriote, qui, lui, s'éloigne plutôt. Alors récemment, il y a eu deux des plus grands films de Rossellini qui sont passés à la télévision, à savoir Stromboli et Voyage en Italie, deux films dédiés et illuminés par la présence d'Ingrid Bergman, qui était la femme de Rossellini à cette époque. Et puis, leur coup sur coup, il y a deux livres qui viennent de paraître, Fragments d'une autobiographie chez Ramsay. Ce sont des textes de Rossellini lui-même, écrits peu avant sa mort, et il évoque son adolescence sous l'ère du fascisme, sa rencontre avec Ingrid Bergman, donc, ou ses déboires avec Hollywood. Alors ce sont des textes qui sont des bouts de réflexion comme ça sur un métier. On voit vraiment que Rossellini était évidemment un cinéaste et des plus grands, mais aussi un homme à qui la morale importait beaucoup. On peut dire même que dans son œuvre, d'une certaine façon, la morale était peut-être plus importante que la forme des films. Et alors l'autre livre, c'est un numéro spécial de l'avant-scène du cinéma, hommage à Rossellini, avec surtout comme pièce maîtresse le découpage et le texte intégral de ce film tellement important, tellement admirable, qui est Voyage en Italie. Et quand on lit, je l'ai vraiment lu de bout en bout, pour la première fois, le texte, les dialogues de Voyage en Italie, on se rend compte que c'est un superbe texte, au point de vue littéraire tout simplement, mais que c'est aussi presque plus qu'un film, c'est-à-dire un manifeste de la modernité au cinéma. Et on se dit, en lisant ce texte et en revoyant le film, je l'ai revu récemment aussi, que Godard est sorti de là. Pas seulement de Rossellini tout entier, Godard, le cinéma de Godard, est sorti d'un film qui s'appelle Voyage en Italie. Wim Wenders, d'une certaine façon, et ses histoires d'errance, de road movie, est sorti de Voyage en Italie. C'est formidable de pouvoir dire ça d'un film.
Est-ce qu'il y a un itinéraire de spectateur rossellinien respecté ?
C'est-à-dire qu'il faudrait entrer d'abord dans un film, puis dans tel autre. Moi, je pense qu'on peut très bien commencer par entrer dans l'œuvre de Rossellini, par Rome, ville ouverte, qui est probablement son film le plus connu, enfin le titre de ce film est le plus connu de tous ses films. Et puis on peut continuer le voyage. Il est beaucoup de questions de voyage, hein, d'ailleurs, dans l'œuvre de Rossellini. C'est en ça aussi qu'il est moderne. On peut continuer par Païsa, poursuivre par Almagnane Zero, puis Stromboli, puis les Fioretti. Tous les films de Rossellini ne sont pas égaux. Je pense que Païsa est plus fort, finalement, que Rome, ville ouverte. Que Voyage en Italie est plus neuf que Stromboli. Mais Stromboli, par contre, est une espèce de chant de passion. Enfin, ça se termine d'ailleurs, l'image finale, ça se termine sur un volcan. Hein, le Stromboli, en question, dans le titre, c'est un film de lave, un film de passion totale, fait pour la femme qu'il venait de rencontrer et qu'il aimait comme un fou, qui était Ingrid Bergman. Il y a comme ça, dans chaque film de Rossellini, si on connaît un peu sa vie, on voit qu'il y a des bouts de sa vie qui sont inscrits dans ses films. C'est pour ça que c'est tellement fort 20 ans ou 30 ans après. Parce que ce qu'il a mis dans ses films, c'est lui, c'est sa chair, son amour, sa haine aussi, tout ce qu'il traversait, tout ce qui lui faisait battre le cœur ou qu'il soulevait d'indignation.
Si vous aviez une image d'un film de Rossellini à privilégier, laquelle décririez-vous ?
Peut-être dans Rome, ville ouverte, Anna Magnani courant après l'homme qu'elle aime au mépris de la mort. L'amour plus fort que la mort, puisqu'il y a une patrouille allemande qui va la battre. Il n'y a peut-être pas dans les films de Rossellini de ces scènes dont on dit qu'elles sont inoubliables à partir du moment où on les a vues. C'est une succession de moments comme ça, qui tous sont très forts. Ou alors l'ouverture de la première séquence de Voyage en Italie, qui est une séquence extraordinairement simple. C'est Ingrid Bergman et George Sanders, les deux interprètes principaux, qui sont dans une voiture qui roule dans la campagne romaine. Ils sont dans une vraie voiture qui roule sur une route de campagne et non pas dans une voiture ou dans une carcasse de voiture dans un studio avec un paysage qui défile sur un écran derrière eux, comme ça a été fait et comme ça continue à être fait dans bien des cas. Et là, brusquement, on est avec eux, on est avec ce couple. C'est un couple dans lequel il y a une espèce de fêlure qui est en train de se révéler. Et on est vraiment dans la voiture, je ne sais pas si on est entre eux, ou si on est dans le coffre arrière, ou sur le siège arrière, et on roule avec eux, on entre dans le cinéma, on entre dans ce qui va devenir peut-être après coup la nouvelle vague.
Ah, ecco la ville, quella bianca, la vedono?
Daniel, Toscan du Plantier. Dans quelles circonstances vous avez rencontré Roberto Rossellini?
Eh bien, un jour, je venais d'arriver à Gaumont, 74, ma secrétaire, c'est la même qu'aujourd'hui, m'a dit, il y a un monsieur Rossellino au téléphone. Alors je me dis, tiens, ça ressemble au nom de l'autre. Et je l'ai pris, puis j'ai entendu, allô, c'est Rossellini, j'ai entendu comme ça, j'entends encore la voix. Et puis moi, je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes parent du réalisateur? Il me dit, non, je suis le réalisateur lui-même, hélas. J'ai eu un flottement parce que c'est comme quand on est curé de campagne et que Dieu vous appelle. On sait qu'il existe, mais c'est quand même surprenant. Alors, il m'a demandé avec une immense respect, un peu ironique, si j'avais un moment libre dans les semaines à venir. Alors, je lui ai demandé où il était. C'était le début de l'après-midi. Il m'a dit, ben, je suis comme d'habitude à l'hôtel Raphaël. Je dis, vous faites quoi là? Ben, il me dit, rien, je suis à l'hôtel. Ben, je dis, ben, je viens vous voir. Alors, j'ai pris la voiture et je suis allé le voir à l'hôtel Raphaël. Ça a commencé comme ça. Alors, quand je suis arrivé, il m'a dit, vous ne devez pas être le directeur général de Gaumont. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas venir me rendre visite, parce que c'est extrêmement dangereux, les gens comme moi. D'ailleurs, je crois qu'il avait raison sur le danger, mais c'était le seul danger intéressant, mais le danger, certes. Et de ce jour-là jusqu'à sa mort, c'est-à-dire il y a exactement 10 ans, eh ben, on s'est vus tous les jours. Donc, ça n'a pas été très long, hein. 74, 77, ça a duré 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Mais alors, comme une love story, quoi. D'ailleurs, tout à fait franchement, c'était un rapport amoureux. Je ne sais pas pour lui, pour moi, puisque c'est le père que je voulais avoir. Et puis j'entrais dans le cinéma, je ne savais pas très bien quels étaient les critères mêmes de cette entrée, autrement que la recherche d'une sorte de plaisir. Mais je n'arrivais pas à trouver le concept même dans un métier qui se vivait déjà à l'agonie. C'est son activité principale que de se vivre à l'agonie en général. Et d'un seul coup, j'ai vu vous savez, comme disent les philosophes, le corpus d'une pensée permanente où tout était vissé, attaché, clair, avec une sorte d'optimisme fondamental fondé sur la lucidité et le pessimisme le plus absolu, romain quand même, hein, qui existe au monde. Donc j'ai vu là quelque chose de sans équivalent. Hein. Et j'ai été nourri de ça, et pour être très très franc, le jour où il est mort, j'ai eu la certitude que j'étais maintenant armé avec mes bagages, comme l'étudiant sort de l'étudiant du Moyen-Âge, hein, formé par le maître. Et à la vérité, je vis avec lui, vous voyez, il n'est pas loin, hein, je vis avec lui, mais pas du tout dans une nostalgie. Alors c'est l'inverse des Viscontiens, hein, je vais être très précis, parce que rien, ce n'est pas être rossellinien que de dire « Ah Roberto, caro amico, quel être humain exquis, le bonheur que ça a été d'avoir l'œil mouillé immédiatement. » Non, ça c'est anti-rossellinien, parce que là il se met en colère, il bouge dans la tombe, on peut même prendre un coup, parce que c'est quelqu'un de très puissant, même mort. D'ailleurs peut-être plus depuis qu'il est mort.
Moi, je crois que toutes les expériences nouvelles sont les bienvenues, puisque c'est un fait réel, et ça, nous pouvons le constater, nous sommes du métier, nous pouvons le constater, que surtout à cause des films qui étaient faits avec un propos strictement commercial, de succès commercial en succès commercial, on est arrivé à la crise du cinéma. Et moi, je voudrais dire mon point de vue.
Vas-y.
C'est un point de vue parmi les autres. Comme disait justement Mann, en Amérique, le cinéma est surtout ça. Bon, mais il faut alors rappeler que dans n'importe quelle industrie, il y a toujours une section qui est très coûteuse, dans laquelle on fait des expériences. Il n'y a pas d'industrie qui vit éternellement sur un produit. Il y a toujours une section de recherche pour laquelle le produit doit se renouveler ou même changer complètement. Donc c'est important, tout ce qu'il peut y avoir d'expérimental dans le cinéma, au même niveau que l'industrie, si nous jugeons au point de vue de l'industrie.
Les gens tout de même cinéma, ce soir spécial Rossellini, Claude Belli.
Et moi j'ai toujours été frappé par sa, je dirais sa violence, une bonne violence, une violence très saine, très salubre, quand il a cru qu'il pourrait faire, et il les a fait tout de même, des films comme Les Actes des Apôtres, comme La Prise de Pouvoir, comme Socrate, comme Descartes, enfin il y en a toute une série, La Lutte de l'Homme pour sa Survie aussi, qu'il a supervisé, eh bien il l'a fait avec une passion, une fougue, c'était ça qui me frappait chez lui. Il pouvait même se mettre en colère, hein. J'étais frappé quand je lui disais par exemple, je le provoquais un peu, je disais votre Louis XIV, c'est pas le Louis XIV que l'on voit dans les livres d'histoire, c'est un Louis XIV petit, trapu, mais il était comme ça, Louis XIV, il était comme ça, je m'en fous des livres d'histoire, je ne veux pas la légende, les auréoles, je m'en fous, ce que je veux c'est la vérité. C'était un homme qui était vraiment à la recherche de la vérité, de la simplicité, et pour ça il y mettait une extraordinaire passion. C'est cette image que je retiens de lui, d'un homme qui faisait des films d'une grande douceur, si on veut, d'une grande tendresse. Le Voyage en Italie est un film d'une grande tendresse, mais en même temps avec beaucoup de violence à l'intérieur.
Mais n'empêche que vous vous considérez aujourd'hui comme hier, Rossellinien.
C'est même ma seule activité, hein. Je crois que je fais rien qui ne soit pas... alors, il y a sûrement des malentendus, mais le Rossellini, c'est tellement ouvert que ça, on peut tout faire. On peut même être Macron et Rossellinien. Bah, surtout Macron, parce que ça, il n'était pas contre. Donc, il y a une capacité, mais c'est une espèce de rapport au monde. Hein. C'est plutôt une morale qu'une activité ou une esthétique. C'est sûrement pas une esthétique, ça, c'est bien clair. Et une morale au sens philosophique du mot, hein, parce que c'était pas c'était un moraliste, mais c'était pas un moralisant, c'était le contraire.
Donc Rossellinien, ça veut pas dire disciple de. C'est plus complexe, c'est plus riche que ça.
C'est un comportement. Je le reconnais très très loin. Tous ceux qui ont eu rapport avec lui, mais on se sent. Parfois vous êtes dans un pays lointain, puis il y a un type qui vient vous voir au bar de l'hôtel. Au bout de 10 minutes, vous avez connu Rossellini, vous. Vous reconnaissez les traces, c'est comme une sexualité. Hein, c'est qu'il y a une espèce de façon d'analyser la société. Bon, par exemple, Godard était évidemment rossellinien. Bon, mais évidemment que Jean-Luc, c'est l'essence du rossellinisme. Beaucoup plus que tous les autres, en parenthèse. Je ne suis pas tout à fait persuadé que aujourd'hui, je crois que Truffaut n'était plus rossellinien. Je crois que Romer l'est tout à fait par le bord extérieur. Et Chabrol, je n'arrive pas à savoir en quoi il le serait. J'ai tendance à penser que... Piala le serait plutôt de plus en plus, alors qu'il n'est pas du tout de ce bord-là. Mais le chemin Renoir, d'ailleurs, peut mener de l'un à l'autre, puisque quand même, c'est de la même famille. Et que être rossellinien, c'est une attitude d'abord professionnelle. Bon, c'est très clair. Le rossellinien pense que l'évolution de l'audiovisuel et des rapports du cinéma dans l'audiovisuel, c'est une bonne évolution. Ça, c'est très typique. C'est même le seul qu'il pense, puisque tous les autres pleurnichent. Le rossellinien pense qu'au contraire, la télé est une chance objective, les télés, de la vie du cinéma, et que nous sommes à l'an 0-1 de l'industrie de programme, et pas la nostalgie. Par exemple, le contraire de Rossellini, c'est l'intervista de Fellini. Voilà, ça c'est le document de... Mais alors, c'est tellement le contraire que je crois qu'on peut dire que Fellini est en quelque sorte rossellinien, parce qu'il est en creux, le rossellinisme. Parce que comme il est né du rossellinisme, bien plus que nous tous, puisque lui, il était enfant... Il a fait tout, il a fait même l'acteur chez Rossellini, il a fait l'assistant, il a fait le macro, il a fait le producteur, il a fait l'enfant. Donc je crois que de cette façon, il n'arrivait pas à vivre avec ce concept de la maturité, de la responsabilité, de l'âge adulte. Et que c'était un jour un mot formidable que m'a dit Truffaut après la mort de Rossellini. Et ce que je lui disais, mais François, on sait bien qu'à la longue, à la fin, vous n'êtes pas vu beaucoup avec Roberto. Il m'a dit, oui, il était trop adulte pour nous. Nous, on fait du cinéma pour rester enfant, lui, il en faisait pour devenir adulte. Donc, le Rossellini, c'est d'abord cette attitude-là. L'autre, c'est qu'on n'a pas peur d'une contradiction. Par exemple, Roberto, si on lit le dernier livre, très remarquable, moi je le connais par cœur parce qu'il m'a dit les mêmes choses l'été d'avant. Je remarque d'ailleurs qu'il l'avait donc vendu deux fois. Ça, c'est aussi très rossellinien, qu'il n'est pas interdit d'être habile et intellectuel. Hein? Et même, il y a un mot à Rome qui est fourbe. Hein? Et même, on dit furbissimo. Par exemple, c'est une qualité. On dit du pape actuel est furbissimo. Ce qui ne veut pas dire une chose méchante, parce que... mais c'est pourtant le même sens qu'en français. Sauf que là-bas, c'est une qualité. J'ai mis longtemps à comprendre qu'on a compris ça, on a compris la via Rome. C'est que là-bas, être très fourbe, et fourbissimo, c'est extrêmement fourbe, la traduction exacte, c'est une preuve de sens de la vie. Alors que chez nous, quand même, on dit d'un type extrêmement fourbe, on a beau dire, c'est pas un compliment, on est toujours le belge de quelqu'un, nous sommes le belge des Romains, et nous manquons de fourberie. Alors, Roberto était extrêmement fourbe. Donc, par exemple, il explique que lui, c'est la chose qui l'intéresse au monde, c'est d'être instituteur, quoi. Il voulait enseigner le monde. Travailler pour l'humanité. Son job, c'est l'homme. Alors, après, il disait, le cinéma, c'est dégoûtant. Les stars, c'est ignoble. Alors, comme par hasard, quand même, on voit qu'il a passé 20 ans de sa vie avec les deux plus grandes actrices à peu près du siècle, Magnani et Ingrid Bergman. Alors on se dit, bah alors c'était quoi? Il avait commis des erreurs? Oh non, sûrement pas, parce que je crois que d'abord il n'a jamais nié que c'était pas mal, Rossellini et Bergman, et puis c'était mieux pour faire les films. Ça, c'était le mensonge rossellinien, qui fait partie du rossellinisme, que la vérité, elle est globale. Mais alors, dans la dialectique quotidienne, tout est imaginable. Par exemple, Rossellini n'a jamais eu de problème d'argent. Je veux dire par là qu'il a toujours pris l'argent à tout le monde pour faire ce qu'il voulait, comme il dit parfois avec 6 mois de retard, mais jamais plus. Et donc, il a laissé une trentaine de faillites derrière lui. Et ce n'est pas un modèle ni moral ni économique, puisque chaque film est une entreprise. Et il y a à peu près un procès encore aujourd'hui par entreprise film, puisqu'il l'a vendu plusieurs fois. Par exemple, il était capable de vendre les droits américains à une dizaine de personnes, des voisins en avion. Vous voulez-vous acheter les droits de mon film? Il prenait 5 000 $, avec quoi il assurait une semaine tranquille dans les palaces, puisqu'il n'a jamais conçu sa vie ailleurs que dans les palaces.
Nuit magnétique, les gens tout de même, cinéma, ce soir, spécial Rossellini.
Ce qui me semble vraiment frappant dans l'art moderne en général et dans le cinéma d'une façon plus particulière, puisque c'est quand même un produit qui touche des masses immenses, je crois, et ça c'est ma crise à moi, et je vous la dis telle qu'elle est, me semble que nous vivons dans un monde qui vit du progrès. Et le thème que tout le monde touche, c'est automatique, c'est on s'arrache les cheveux puisqu'il y a le progrès. Et c'est ça, je crois, le signe d'une pathologie de l'art moderne épouvantable. Puisque à ce moment-là, où il faut être capable d'arrêter le progrès, si le progrès est un vrai malheur, ou bien s'il ne l'est pas... Pardon.
Robert Bresson dit qu'il n'y a pas de progrès en art, M. Rossellini.
Je crois que depuis les grottes de Lascaux, on n'a pas fait de meilleur
progrès.
C'est qu'on en revient au naïf.
Nous vivons dans une société qui vit du progrès. Et ce progrès, le moment que ça rentre dans les moyens industriels de l'art-industrie, c'est l'expression toujours qu'on s'arrache les cheveux, on est malheureux, tout marche mal, c'est les crises. Bon, ben, alors ça veut dire que nous sommes dans la folie totale. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est inutile de dénoncer. Quand on a dénoncé une fois, on s'arrête de dénoncer et puis on passe à faire des actions actives où il faut arrêter le progrès ou bien il faut tâcher de monter sur le dos du progrès pour le diriger, pour qu'il soit humainement utile s'il s'agit de l'industrie. Alors, pour l'art, évidemment, les cas sont extrêmement différents puisque chaque artiste est un monde à soi et il a tout le droit d'être absolument comme il veut. Il y a aussi des nouveaux thèmes, ce n'est plus question de progrès, c'est question d'autre chose. D'évolution et de recherche du nouveau, voilà.
Et ces films sont inépuisables parce qu'on les redécouvre aujourd'hui, on s'aperçoit que même des films, je dirais, secondaires, mineurs de Rossellini, par exemple ce qu'il a fait avant Rome, ville ouverte, on ne les voit jamais. Le Navire blanc est un film superbe. C'est un film qui est fait en période fasciste, ça n'est pas du tout un film fasciste, c'est un film pacifiste, c'est un film humaniste. Eh bien, il a fait tout de même ça en 1941. Un film comme Anima Nera, par exemple, qui lui-même n'aimait pas beaucoup, qui n'est pas sorti, on l'a juste vu à la télévision un soir, mais ça annonce toute la comédie italienne d'aujourd'hui. Anima Nera, c'est un, avec en plus le style propre à Rossellini. Mais il a...
Ça veut dire quoi, style propre à Rossellini?
Alors là, évidemment, si on veut définir le style de Rossellini, c'est difficile. Moi, je dirais que, tout à l'heure, je parlais de vérité. Rossellini faisait des films d'amateurs. Mais d'amateur au sens fort du terme. Rossellini refusait, par exemple, tout ce qui est virtuosité technique. Il refusait de faire appel à des vedettes. S'il avait des vedettes, eh bien, il leur enlevait leur statut de vedette. Il en faisait des hommes simples, des hommes de tous les jours. Rossellini filmait simplement. À hauteur d'homme, Rossellini ne faisait pas des contre-plongées, ne faisait pas des surimpressions, des effets de montage. Il détestait le montage, par exemple. Alors, techniquement, voilà un petit peu le style de Rossellini, la très grande simplicité du regard. Rossellini avait un regard vif, un regard passionné sur le monde et les choses, et sa caméra était toujours un petit peu le prolongement de ce regard. Alors que ce soit l'Inde, que ce soit l'Italie déchirée des lendemains de la guerre, que ce soit Louis XIV, que ce soit, enfin vous pouvez prendre tous ces films, les Fioretti de François d'Assise, c'était toujours le même regard d'une très grande simplicité, d'une très grande justesse. Le résultat, c'est que quand on revoit par exemple les Fioretti, qui me paraît peut-être son plus beau film, on a l'impression d'un film qui a été tourné au Moyen-Âge. Je ne connais pas de film qui donne cette impression-là. On n'a jamais l'impression chez Rossini de postiche, de reconstitution historique. C'est tellement simple, c'est tellement vrai. On voit François et ses compagnons, on a l'impression vraiment d'y être. À aucun moment, on ne sent l'effort de reconstitution. Je crois que c'est ça, surtout pour moi, Rossellini, et c'est en quoi il est un exemple inépuisable pour tous les cinéastes. Très souvent, il se mettait lui-même en scène, pas lui, en tant qu'acteur, il n'était pas acteur, mais il faisait passer à travers ses fictions, ses propres sentiments, ses propres sensations. Et je pense aussi qu'il était en effet très près du monde, très près des choses. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, que les films de Rossellini se portent souvent des dates ? Europe, 51. Hein, Païsa, il n'y a pas de film plus... Le Pays. Hein, il cherche à être à l'écoute vraiment du monde.
À un moment donné. Allemagne, année zéro.
Allemagne, année zéro. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il a fait aussi l'un de ses derniers films, c'est Italia anno uno, Italie année 1. C'est un de ses derniers films qu'on a d'ailleurs très peu vu également. Donc toujours cette volonté de situer, de décrire, et en même temps, tout en étant très près d'une date, d'une temporalité précise, en même temps s'efforcer d'atteindre à l'universel. Stromboli, terre de Dieu. François, jongleur de Dieu. C'est-à-dire s'élever jusqu'à l'universel, mais sans spiritualisme facile, sans démagogie, en restant très près des choses. Donc très près des choses, très près de la terre italienne ou de la terre indienne, il ne faut pas oublier aussi qu'il a fait un magnifique film sur l'Inde, et en partant de la terre, arriver au ciel, quoi, en gros. C'est fabuleux, et je crois qu'il y est arrivé.
Il avait découvert dans les 20 dernières années la pensée d'un moine des Balkans qui s'appelle Comenius. Et ce Comenius avait fixé une idée tout à fait extraordinaire, à savoir que le langage était l'épicentre des malentendus et la cause des guerres. Et si on pouvait avoir une définition objective de chaque chose, par exemple par l'image, on éviterait la cause des guerres. Et alors en particulier... Comenius avait dit, s'il faut décrire à quelqu'un ce que c'est qu'un rhinocéros, c'est extrêmement compliqué. Si on peut faire le dessin du rhinocéros, c'est beaucoup plus clair. Et Roberto avait appliqué ça à l'invention de l'image du cinéma des Frères Lumière. Il avait dit, il est clair qu'aujourd'hui, grâce à l'image, on va pouvoir avoir une vision objective, ça va dire contre le discours de la subjectivité de l'auteur, du monde, et éviter beaucoup de malentendus. Et moi, j'ai assisté, le dernier mois de sa vie, au montage du film qu'on devait faire ensemble, qui était donc Une vie de Karl Marx. Et j'ai assisté aux démonstrations où il allait voir les présidents de la RAI à l'époque de la deuxième chaîne française. Et alors, il leur expliquait. Il disait, voilà, le sujet Marx, c'est pas que c'est une bonne idée. C'est un film pour éviter la guerre mondiale, donc il n'y a pas le choix, puisque c'est le seul moyen que vous avez de l'éviter. Pourquoi ? Parce que les gens veulent se tuer, ça c'est biologique et sexuel. Mais ils ont inventé des raisons pour se tuer qui est mauvaise. Ils appellent ça le marxisme. Et alors moi, j'ai étudié Marx. Et alors évidemment, ça n'a rien à voir avec le marxisme. Donc on n'a pas le droit d'utiliser. Il faut rendre le mot à la famille Marx et dire le marxisme est une autre histoire qui n'a rien à voir avec Marx. Et là, on va donc raconter très très modestement et très précisément des faits autour de Karl Marx et de sa pensée, dont il ressortira que ceux qui disent le marxisme sont des escrocs. Et que donc, d'ailleurs, les anti-marxistes aussi, dit-il, puisque on se bat sur une cause qui n'est pas la bonne. Donc, si on a envie de se casser la gueule entre Américains et Russes, on a le droit, mais on enlève le mot. On dit simplement, aujourd'hui, on a envie de jouir, on a envie de cogner. Hein, mais on n'a pas le droit de dire, il y a un débat idéologique, parce qu'il n'est pas là, le débat idéologique. Marx, il parle d'une révolution culturelle prolétarienne sur quelques siècles, qui est un basculement de la culture aliénée à la culture des aliénés, et qui ne voyait absolument pas par une prise de rue, n'est-ce pas, dit par un tank occupant la radio. Il a clairement dit, ça c'est des histoires d'exalter, c'est pas des bonnes idées, la pensée c'est lent. Hein. Il y a un millénaire entre le Christ et presque 2000 années entre le Christ et Hegel, et il en faut encore au moins un pour arriver à une pensée tout à fait libérée. Donc c'était une pensée de philosophe allemand du 19e siècle, c'était pas le seul à penser ça d'ailleurs. Donc c'est ça le sujet du film. Alors il disait, donc l'avantage de mon film, c'est qu'il évite peut-être pas la guerre mondiale, mais en tout cas, il la vide de son contenu. Donc il la rend impopulaire, puisqu'on n'a pas le droit de se battre pour des idées qui sont pas les idées que le monsieur a dit. C'était intéressant comme mode de vente. C'était dire radical, parce que c'était dur de dire non.
Parce que dire non, c'était prendre le risque de la guerre mondiale.
Les gens tout de même, cinéma, ce soir c'était un spécial Rossellini à propos de la parution de deux ouvrages, fragments d'une autobiographie de Roberto Rossellini, édité par Ramsay, et hommage à Rossellini avec le script de Voyage en Italie, publié par L'Avant-Scène Cinéma. Roberto Rossellini avec Daniel Toscan-Duplantier et Claude Belli. Les gens tout de même cinéma, Arnaud Laporte, Francis Malval, Jean Fèvre, Jean Couturier, Michel Bouju, Laure Adler.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 17 juin 1987. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Tu sei un bugiardo e te ne pentirai. Le Pleiadi hanno fatto un segno sulla pancia di tua madre e avrai la ricchezza, che sarà però divorata dai vermi. Non ridete, sciocchi! Io posso gettare la sventura sulla sua casa. Quando il gran carro si piega verso le montagne del Tauro, prendi un dente dell'aspide e gettalo dietro le spalle. Altrimenti I tuoi figli saranno divorati dagli sciacalli la notte del solstizio. Voltati e guarda il cielo. Che cosa vedi? Splende Orione. Sei bello e fortunato, spudorato e virile, perché questo, Orione,